J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme, d'une cinéaste, qui un jour s'est posé une question. Au fond, qu'est-ce qui dérange vraiment? Qu'est-ce qui peut créer chez le spectateur cet état de sidération? Le spectateur, confortablement installé dans son fauteuil, qui vient passer un bon moment de divertissement, se changer un peu les idées pour revenir après tranquillement à son boulot, ce n'est pas trop sa tasse de thé. Elle veut qu'il soit mal assis sur sa chaise, qu'il ne tienne pas en place et que son corps soit traversé, que son corps soit percuté, dérangé. Oui, je crois que c'est le mot, mais on y revient, c'est la question du jour, qu'est-ce qui dérange vraiment ? Le blasphème, pas vraiment, trop banal. Ça fait bien longtemps, en tout cas en Occident, heureusement qu'on peut insulter les dieux sans déranger personne. Les propositions radicales, non plus, enfin politiques j'entends. Il suffit d'allumer une chaîne info à n'importe quel moment de la journée pour tomber sur une foison de propositions politiques insupportables. Pas besoin de cinéma pour ça. L'immoralité, les comportements de purs salauds, eh bien toujours pas. L'histoire du cinéma est pleine de salauds et malheureusement la vraie vie aussi. C'est à se demander si ce qui serait vraiment dérangeant ne serait pas plutôt de faire le biopic de quelqu'un de bien. Enfin, elle cherche, mais elle ne trouve pas. Qu'est-ce qui dérange vraiment? Et puis un jour, elle se dit peut-être que ce qui dérange vraiment, c'est de montrer des corps. Nous ne savons pas ce que peut un corps, écrit Spinoza, mais savons-nous ce que le cinéma peut faire en montrant des corps? Et si le cinéma pouvait montrer des corps comme aucun autre art ne peut le faire. Des corps malades, éclatés, vivants, des corps en train de jouir, des corps en train de mourir, des corps de sang, de marbre, des corps exultants, suintants, des corps pétrifiés, des corps traversés. Mais traversés par quoi? Nos corps ne sont-ils que matière, organes et viscères? Ou sont-ils traversés par un souffle, un esprit capable de donner vie à la matière? Voilà, se dit-elle, cette sidération qu'elle aspire à créer chez le spectateur, c'est peut-être tout simplement en lui montrant des corps qu'elle va enfin l'atteindre. Pour en parler ce matin, de ce qui dérange vraiment, et de ce que peut le cinéma, de ce que peut le corps aussi, j'ai la joie de recevoir une réalisatrice et scénariste auréolée de la Palme d'Or pour Titane en 2021. Près de 10 ans après son premier long-métrage, Grave, son nouveau film, Sensation du dernier festival de Cannes, sort dans 2 jours en salle. Alpha, avec Tahar Rahim, Golshifteh Farahani et Mélissa Boros. Vous l'avez reconnu, Julia Ducournau nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon et en sa compagnie, nous allons nous demander ce que le cinéma peut montrer de nos corps et de nos désirs. Nous allons nous demander ce qui nous dérange vraiment.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Julia Ducournau.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir 2 jours avant que sorte ce film qui a tellement fait parler, qui a beaucoup fait sensation à Cannes dernièrement, et puis aussi qui a divisé la critique. Et je vais commencer tout de suite par la question que j'ai posée dans l'édito. Au fond, pourquoi c'est si choquant de voir les corps tels que vous les montrez dans votre cinéma?
C'est une bonne question parce que mon intention n'est pas du tout de choquer. Alors je vais un petit peu peiner à vous donner une réponse. Je pense que ce qui dérange vraiment déjà, c'est que dans l'intention, il ne s'agit pas de déranger en fait. Je crois que on me demande souvent pourquoi je traite par exemple de personnages marginaux. Et moi, ma réponse, c'est assez souvent que je ne trouve vraiment pas mes personnages marginaux. Je pense que c'est la société qui est marginale. Alors, vous voyez, c'est une question de point de vue. Ce qui vous dérange va pas être ce qui va me déranger moi du tout. Moi, ça va être quelque chose que je vais trouver au contraire un endroit de communion, par exemple. Et donc, du coup, je ne peux pas donner de réponse définitive, mais d'ordre général, je pense que l'intérêt, parce que vous parliez de divertissement tout à l'heure, bon, moi, je pense qu'il faut quand même faire la part des choses entre l'art et le divertissement. Je pense que si on parle d'art, on parle d'appeler à la liberté de l'autre, et donc de ne pas essayer de discerner ni le vrai du faux, ni de donner une quelconque forme de réponse à quoi que ce soit, mais plutôt de questionner.
Ouais, quand je vous entends, je pense tout de suite au personnage joué par Tahar Rahim dans le film, où en effet, on pourrait se dire c'est un marginal, c'est le frère toxicomane d'une femme qui est médecin et qui, par ailleurs, lutte contre une pandémie et qui a une jeune fille adolescente. Voilà les 3 personnages principaux du film. Et justement, ce que vous venez de dire, je l'entends par rapport à ce personnage. On pourrait se dire c'est un marginal, c'est un junkie, mais en fait, peut-être qu'il est plus normal que d'autres et que la marginalité, elle est ailleurs. Et en tout cas, que vous voulez aussi nous aider peut-être à avoir de l'empathie pour ce qui est différent, voire qui pourrait sembler trop marginal, voire même monstrueux. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi ?
Bah, moi, je pense déjà qu'on ne se définit pas par ses passions, on se définit par ses actions. Par passion, j'entends évidemment, j'inclus l'addiction dedans, évidemment, j'utilise au mot grec du terme, pathior. Je ne pense pas que qui que ce soit, ça soit défini ni par ses passions, ni par l'affliction dont il est atteint, fort heureusement. Donc le personnage de pour moi au contraire, le personnage d'Amine est finalement un personnage assez paradoxalement solaire, parce que c'est le seul dans le film qui dit les choses telles qu'elles sont, à l'aune de son expérience, évidemment, puisqu'il s'agit d'un récit rétroactif, d'aucuns pourront parler de film de fantôme, et lui, à l'aune de son expérience de la vie et de la mort, il est capable d'aider cette jeune fille à s'émanciper et à justement réussir à trouver des contours hors du regard maternel.
Oui, tout à fait. C'est à la fois pour... Je ne spoile pas, mais qu'on comprenne un peu le film qui sort dans deux jours, Alpha. C'est à la fois un film familial, un drame familial, puisque sa grande sœur l'héberge chez elle. Il est censé faire un sevrage, du moins j'ai l'impression, mais étrangement, il va vivre dans la même chambre que l'adolescente. Mmh. Et comme vous le dites très bien, il va l'aider à se libérer d'une mère qui peut-être l'aime, son ado, de façon un peu étouffante, on va dire. En tout cas excessive.
Bah en fait, c'est ce que dit Amine dans le film à la fin. Il dit à Alpha, mais tu sais, l'amour, parfois, ça rend les gens fous. Pour moi, c'est pas du tout étonnant, dans la mesure où, une fois de plus, je pense que l'amour engage une responsabilité forcément vis-à-vis de l'autre, et que cette responsabilité-là, elle n'est pas toujours facile à jauger, puisqu'évidemment, elle peut être teintée d'irrationalité, quand on parle de passion. Donc oui, enfin c'est un film d'amour, ça il y a pas de doute. Alors je dis pas un film familial parce qu'évidemment un film familial pour moi c'est quelqu'un qui va mettre tout le monde d'accord sur le divan le dimanche soir, mais c'est définitivement
c'est pas le cas, je le confirme.
Mais c'est définitivement effectivement un drame familial qui interroge en fait ce que c'est qu'aimer, et ce qui interroge c'est aussi ce qui fait famille. Ouais. Et ce qui, selon moi, évidemment, quand je dis ça engage une responsabilité vis-à-vis de l'autre, ça engage aussi une liberté fondamentale, et en ça, c'est un travail perpétuel pour moi. Et l'amour et le fait de faire famille, c'est pas quelque chose qui vient forcément des liens du sang, c'est une élection, que ce soit au sein d'une famille nucléale ou au sein d'une famille trouvée, c'est une élection perpétuelle.
Bien sûr, on peut choisir sa famille, et c'est un thème très beau. Alors ça, c'est une dimension du film, et puis ça croise une autre dimension. C'est qu'il y a, dans cette époque, qui ressemble un peu aux années 80, d'ailleurs il n'y a pas de téléphone portable, ça permet un peu de dater la chose, mais quoi qu'il y a plein de sauts temporels, et il y a en même temps une épidémie mondiale qui ressemble un peu au sida, qui peut ressembler un peu au Covid, et qui fait que les gens sont affectés, ils deviennent rigides, ils sont envahis par une sorte de virus, et ces deux films se télescopent. C'est ça qui est assez singulier dans la démarche. On va écouter tout de suite un extrait pour essayer de rentrer un peu dans l'univers de votre film Alpha, qui sort dans deux jours et que moi, personnellement, j'ai adoré, dans un état proche d'une forme de sidération.
C'est quoi ça ?
Quoi ?
Comment tu t'es fait ça ? T'es allé dans une boutique ?
Une boutique, de quoi tu parles ?
Un salon tatouage, je sais pas ! Qui t'a fait ça ? Avec quoi ?
Mais je sais pas, un mec, on a squatté son appart, je le connais pas.
Elle était comment, l'aiguille ? Il l'a aussi utilisée sur quelqu'un d'autre ?
Une pointue.
Elle était propre ou sale ? Elle sortait d'où ?
D'un tiroir, enfin, je crois.
Donc là, c'est la scène, c'est assez proche du début, mm-hmm. où on comprend qu'elle va peut-être être contaminée. Bon, on ne sait pas, hein. Il va y avoir plusieurs problèmes en un. Le problème de l'accueil de son oncle, qu'elle ne connaît pas trop, mais qu'elle ne reconnaît même pas au début. Et le problème qu'elle va peut-être être contaminée, d'ailleurs, et puis d'autres personnes aussi.
En tout cas, que sa mère pense qu'elle pourrait être contaminée. Voilà. Et c'est important de passer à travers le prisme du regard de la mère, puisqu'il s'agit de s'en détacher pendant tout le film, et que ce prisme-là, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'amour qui rend fou, peut manquer de discernement à plein d'égards.
Oui, alors évidemment, c'est donc la mère est jouée par Golshifteh Farahani. C'est un très joli personnage, elle est médecin, elle a quelque chose de très généreux, elle prend soin de tous ces gens atteints par le virus. Et alors, ce qui est très bizarre, et c'est ça la sidération aussi du spectateur, c'est qu'il y a des flashbacks, et parfois, cette ado, on la retrouve, dans le film, elle a plutôt, je dirais, 12-13 ans, et parfois, on la retrouve à l'âge de 5 ans. Mm-hmm. Et on comprend que quand elle avait 5 ans, il y avait déjà le virus, il y avait déjà l'épidémie. Mm-hmm. Donc, on comprend que l'humanité est figée, qu'il n'y a pas de thérapie, qu'on ne trouve pas de façon de s'en sortir. Mm-hmm. Et c'est ça qui est particulier. Et moi, ça m'a un peu rappelé le moment du Covid aussi. Et donc, tout s'interpénètre, c'est à la fois une réflexion sur les années sida, ça fait aussi résonner notre expérience de sidération face au Covid, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir, quoi. Tout est figé, en quelque sorte.
Je pense que ce qui vous fait tirer le trait entre toutes ces pandémies, et puis on pourrait aussi parler de la peste noire au à l'époque médiévale et tout ça, je pense que le point commun, en fait, c'est évidemment cet état de sidération générale qui fait que les actions sont soit inexistantes, soit absolument pas à la portée de ce qui est en train de se passer, puisque ce qui est en train de se passer est absolument impossible à conceptualiser sur le moment. Ouais. Et donc, on se retrouve dans un monde, finalement, qui n'a plus de parents, parce que nos gouvernants ne savent pas réagir, personne n'a de réponse, personne ne sait. Mais le lien aussi dans tout ça, c'est la contamination de la peur, et c'est plutôt en fait de ça que je voulais parler. C'est sûrement pour ça que vous dites on voit un peu de cette pandémie-là et cette pandémie-là. Mais moi, ce que je traite réellement dans le film, et ce qui fait la différence entre les deux époques, c'est que entre le passé et le présent de mon film, la peur s'est insinuée dans la société et a donc a donné une société centripète où tous les membres, les électrons, en fait, se sont écartés, projetés à l'extérieur du centre. Et donc, je parle beaucoup d'une période homogène que j'ai traitée donc à l'image de manière très, très saturée dans le passé, où les couleurs sont extrêmement collées, ouais. Extrêmement chaudes, extrêmement vivaces. Et en présent, où on est dans une société hétérogène, où là, on est dans une période très désaturée, avec une image très froide, quasiment sans couleur, presque métallique. Et ce qui, pour moi, traduit en fait qu'entre les deux époques, en fait, la peur s'est tellement inséminée qu'elle a séparé tous les électrons libres de la société, qu'il n'y a plus d'unité possible. Cette unité, à la base, elle est vue à travers les yeux d'une enfant de 5 ans, puisque quand on a 5 ans, on croit que nos parents sont une unité, on pense que la société est unifiée également, et puis là, on se rend compte en grandissant, en réalité, qu'il y a une grande solitude derrière tout ça, et qu'en fait, chacun peut être objet d'un rejet systématique pour n'importe quelle raison.
Exactement. Le film montre aussi comment on se met à voir les autres en les soupçonnant, comment la psychose collective envahit. C'est passionnant ce que vous venez de dire, parce qu'il y a un énorme travail sur la forme, chez vous toujours, sur les couleurs, sur les matières. C'est très très beau plastiquement. Et justement, l'évolution que vous soulignez, entre le moment où il y avait encore une unité malgré l'apparition du virus, et le moment où quelque part ça s'est installé, et comme vous dites, ça a éclaté la société, dans le même moment, ça l'a figé. Et la couleur devient celle du marbre un peu,
ouais.
Ça l'a fossilisé. Et c'est ça aussi que vous montrez, c'est quand on commence, enfin je crois, en tout cas c'est une interprétation, quand on commence à se méfier les uns des autres, eh bien tout se fige et quelque chose de morbide et de mortifère,
totalement,
au fond, envahit le corps social.
Ça c'est très vrai, ça c'est très vrai. Et d'ailleurs, vu que moi je considère que structurellement la famille fonctionne de la même manière que la société, et que les traumas se transmettent de la même manière au sein d'une famille, comme elles se transmettent au sein d'une société sur les générations futures, quand il n'y a aucune réparation qui est faite. Et là évidemment, on voit entre nos deux époques, donc admettons qu'il y a 7 à 10 ans qui séparent les deux époques, que non seulement il n'y a aucune reconnaissance de la gravité de la situation, mais aussi un déni persistant du virus, dans le sens où ça n'arrivera qu'aux autres et pas à moi.
Ouais.
On voit les prémices en fait d'une société qui ne va pas, qui est en train en fait de mourir. Et c'est un peu aussi le thème du film, c'est comment naître ou comment être dans un monde où tout est en train de mourir.
Exactement, c'est pour ça que le film est dur, il pose cette question, mais il y a quand même une proposition d'espoir, malgré tout, enfin selon
totalement,
moi.
Non, je suis quelqu'un de très optimiste.
C'est que cette médecin, la mère donc un peu étouffante, jouée très bien par Golshifteh Farahani, en fait, on peut rien faire. Ça, on ne sait pas quelle action entreprendre, puisqu'on ne peut pas lutter contre ce virus, que les gens finissent par mourir, fossilisés. D'ailleurs, il y a une esthétique des gisants, ils finissent pour tous par. Ouais. C'est très très beau et très glaçant. Mais ce que je trouve très beau, c'est que elle continue à faire son job de médecin. Mmh. Elle continue à apporter du soin, ce qu'aujourd'hui on appelle le care. Mmh. Elle continue à essayer d'apaiser, à parler à l'oreille des gens, à les masser, à faire des biopsies, à mettre des bandages.
Elle n'a pas peur.
Et c'est très beau, ça.
Oui, parce qu'elle n'a pas peur. En fait, c'est quelqu'un, bon, de fait de son métier, forcément, qui est quelqu'un de rationnel. Évidemment, c'est aussi une résistante hein, au sein de son hôpital, puisqu'il y a une scène qui montre bien que le reste des soignants de l'hôpital ont abandonné ces patients-là. Mais ce qu'il y a aussi de particulier chez ce personnage et qui fait qu'elle est capable, comme vous dites, de rester dans, je cite, le care, c'est que non seulement c'est sa vocation, c'est sa mission en tant que médecin, mais aussi parce que c'est un personnage qui ne s'appelle que maman. Et je l'ai appelée comme ça, je ne lui ai pas donné de nom parce que c'est la mère d'Alpha, mais c'est aussi la mère de son frère, c'est aussi la mère de ses patients, et c'est la mère avec un grand M généralement parlant. Mais alors évidemment, ce que vous voyez, là où vous voyez de l'espoir, moi j'y vois un don d'amour infini et inconditionnel. Mais par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui du coup est dans une forme de sacrifice telle qu'elle est dans le déni de sa propre existence à elle. Donc elle est partiellement régie par un principe de mort en ce qui la concerne elle-même. Et que ce principe de mort, il est résolu à la fin par sa fille. C'est-à-dire que c'est sa fille qui, en l'aidant à faire le deuil, qu'elle n'a jamais réussi à faire à cause de ce sens du sacrifice-là, ce jusqu'au boutisme-là de vouloir sauver la vie à tout prix, sa fille l'aide à le faire en lui disant « maintenant c'est passé ». Et donc elle lui fait passer, elle l'amène d'un principe de mort à un principe de vie. Donc c'est sa fille qui l'a fait accoucher d'elle-même.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby because she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Truly dead.
C'était Prince, Sign of Time.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Julia Ducournau et c'est passionnant. On parle, Julia, de votre film Alpha qui sort dans 2 jours, à la fois un film de pandémie et un drame familial qui, en effet, ne réconciliera pas tout le monde. Avant qu'on écoute Prince, vous nous parliez de cette façon dont c'est finalement l'adolescente qui va libérer sa mère de son but impossible, de sauver tout le monde, de tout préserver.
Et surtout de faire le deuil, l'impossibilité du deuil et du laisser partir. Je crois que c'est surtout de ça qu'elle la sauve. En lui faisant réaliser, une fois de plus, puisque c'est un film à voir deux fois, c'est un récit rétrospectif, ouais. En réalité, en lui faisant réaliser que tout ce qu'elles ont vécu, eh bien en fait, elles l'ont déjà vécu avant. Et c'est juste que la mère a refusé en fait, de laisser partir le souvenir de son frère, c'est ça, et d'en avoir, ouais, fait le deuil. Ouais.
Mais vous pensez qu'il faut que ça revienne plusieurs fois pour qu'on l'entende ?
Je pense que, en fait, tous mes films, en général, moi, je les crée comme ça. C'est-à-dire que évidemment, la narration, mon mode de narration est un peu particulier dans le sens où vraiment c'est une narration extrêmement interne au personnage. C'est une narration qui n'est pas filée. C'est une narration de ressenti énormément et aussi de cérémonie, où je mets en scène des cérémonies dans mes films. Donc évidemment, ces cérémonies-là font qu'on ne sait jamais vraiment où on va dans ce que je fais. Mais moi, je vous donne énormément de signes depuis le début du film pour que, quand vous les revoyez, vous vous disiez « Ah, mais bien sûr, en fait, ça, c'était là, et tout ça. » Donc oui, je pense que, idéalement, pour quelqu'un que ça interroge, y revenir une deuxième fois me paraît pas mal.
Donc le programme, dans 2 jours, mercredi 20 août, à 10h du matin, une première fois, et à 18h ou à 20h, avec d'autres personnes d'ailleurs, ou tout seul, une deuxième fois. C'est aussi une réflexion sur le trauma, parce que finalement, la mémoire traumatique fait que le trauma revient à l'identique, avec un figement, notamment, on sait maintenant ça, même du point de vue des neurosciences, qu'est-ce qui se fige dans la plasticité cérébrale. Et au fond, la façon de remettre de la vie, c'est de remettre du mouvement dans ce qui a été figé. Et en fait, le film, comme il y a l'histoire de la pandémie parallèlement, ça montre le mouvement contraire, puisque le virus fige la vie et les gens, en mourant, deviennent du marbre. Oui. C'est des très belles images, des gisants. Donc pour moi, c'est la même réflexion, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est vivant et quand est-ce qu'on est figé et mortifié ?
C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je vois ces deux mouvements en un à travers ces corps en marbre. La raison pour laquelle j'ai choisi, en fait, de créer cette maladie-là et ce symptôme-là, de pétrification et surtout de comme vous parliez de gisant tout à l'heure, c'est exactement ça l'idée. C'est-à-dire que moi, mes références, c'était ces statues de saints et de rois sanctifiés qu'on voit dans les cathédrales et tout ça. C'était à la fois parce que je voulais montrer, comme vous le dites très bien, un corps qui progressivement se met à l'arrêt. Or, on sait que la pierre est un matériau non mutable, contrairement au métal de titane qui, si on le met dans le feu, peut rentrer en fusion, peut changer d'état, peut devenir liquide. La pierre, ça ne devient ni gazeux ni liquide. Donc c'est un matériau qui est proprement mort. Et donc ça, je pense que quand on voit ça au sein du même corps, le côtoiement de la chair vive et de la pierre, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi visuellement de ma peur de la mort. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, ce symptôme là, évidemment aussi pour son lien avec le gisant, mais dans son lien avec le gisant, j'essayais aussi de créer un monument à tous ceux qu'on a perdus pendant X pandémie, celle à laquelle vous pensez, ou tous ceux qu'on a perdus même en général, et d'essayer de les rendre éternels comme ça. Donc quand on rend éternel, on commence un nouveau cycle également, mais qui lui, pour le coup, va nous suivre jusqu'à nous à la fin de nos jours. Donc il y a un double mouvement dedans, dans le matériau lui-même, qui en effet est absolument mortifère, mais dans l'élévation au sacré de ces morts-là, il y a un mouvement vers la vie, je pense.
Oui, Et c'est ça qui est fort dans le film, et qui d'ailleurs se traduit par une esthétique particulière, qui est très, 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 très belle, où on voit ce mélange comme ça de couleurs bleutées, blanchâtres, marbre, et puis de la vie qui reste, parce qu'ils ne sont pas encore morts à un certain moment. Ça me fait penser, si on garde l'esthétique et qu'on la déplace un peu, aussi à des pierres tombales, quand de l'herbe jaillit dans la pierre et que c'est dans l'autre sens. Quoi.
Là, c'est intéressant, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est une belle image, ça me donne envie d'essayer de voir ce que ça pourrait donner, mais c'est assez juste. Ouais.
Alors, autre chose qui va peut-être vous surprendre, ça m'a fait penser, enfin, la figure de l'oncle, donc joué par Tahar Rahim, donc qui a perdu 20 kilos à la méthode, voilà, il s'est investi à fond dans cet amaigrissement. Et,
pas que. Il y a aussi une organisation qui aide les addicts à Paris pendant trois mois, tous les jours.
Et en fait, il est quelque part, vous l'avez dit au début, on ne va pas le définir comme un junkie, on va pas l'essentialiser. Vous avez dit, on n'est pas nos afflictions, nos passivités.
Non.
On est aussi ce qu'on fait. Or, ce qu'il fait, c'est aussi de se comporter un peu comme un sage, quelque part.
Bien sûr.
Presque un prophète. Il m'a fait penser, de ce point de vue-là, à, vous allez me dire si je pète un plomb, à deux figures de Rusty James, le film de Coppola, où il y a Mickey Rourke qui joue The Motorcycle Boy, complètement paumé, mais qui en fait est un sage inspiré, et le père des deux frères qui sont Mickey Rourke et Matt Dillon, qui est joué par Dennis Hopper, qui est un vieil alcoolique, mais qui au fond a la sagesse grecque qui revient. Et donc je trouve qu'il y a toute une histoire comme ça du cinéma qui revient avec ces figures de gens qu'on pourrait croire marginaux, comme on l'a dit au début, mais qui en fait ont beaucoup de choses à nous apporter, de sagesse.
Alors bon, évidemment, j'avais pas pensé à Rusty James du tout, mais pourquoi pas? Mais en fait, dans ce que vous dites, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous voyez, moi, je crois beaucoup dans la vie à la mutation. Je crois qu'on perd, je crois qu'on existe en mouvement et que quand il n'y a plus de mutation, c'est qu'on est mort. C'est pour ça aussi que j'ai choisi la pierre, comme je le disais, qui est non mutable.
Ouais.
Et je pense que certaines peaux sont plus difficiles à laisser partir que d'autres en soi, et que effectivement quand on a la peau abîmée, quand on a le cuir abîmé, c'est aussi des marques de l'expérience, et c'est les marques d'une expérience toute humaine, mais que tout le monde n'aura pas vécu, ou qui peut rebuter certaines personnes. Mais donc effectivement, il y a forcément une forme de sagesse qui va avec cette souffrance-là, moi, que je n'appelle pas marginale du tout, que j'appelle être une souffrance à vif, et qui va au contraire directement dans le mille.
Oui, en fait, vous filmez, d'ailleurs c'est pas la première fois, la métamorphose, presque la mue, on pourrait dire aussi, la mue. Je vous ai préparé d'ailleurs un petit cadeau, c'est Claude Rich, de sa belle voix, qui lit la métamorphose.
Il n'eut aucun mal à rejeter la couverture. Il se gonfla un peu et elle tomba d'elle-même. Mais ensuite, Gregor fut gêné par sa carrure formidable. Pour se lever, il lui aurait fallu des bras et des jambes, et il ne possédait que de petites pattes en vibration continuelle sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'action.
Alors c'était la métamorphose. On sent que toute cette littérature-là, tout ce cinéma-là, vous touche beaucoup, et qu'au fond, ce qui pour certaines personnes est morbide, pour vous, ça dit quelque chose de la vie elle-même, en fait.
Mais moi, déjà, merci pour cet extrait. J'adore la métamorphose, c'est un de mes livres préférés, donc ça me fait très plaisir. C'est-à-dire que moi, je pense que si j'ai choisi ce métier-là, c'est parce que j'ai une nécessité en moi de montrer les choses. Mais alors, montrer les choses, du coup, c'est... Si on montre les choses, on montre les choses sans atermoiement. Enfin, moi, en tout cas, je pense comme ça. Je pense qu'il... comment dire ça ? Je pense que l'art, la poésie en particulier, parce que j'ai un fonctionnement, comme je vous le disais, dans les petites cérémonies de scène que je mets en place, il y a quelque chose par touche qui est pas si loin, finalement, soit de la poésie, soit de la psychanalyse, c'est vous qui me le direz. Mais en tout cas... En créant une nouvelle iconographie, je pense que c'est là où on peut se rapprocher le plus de ce qu'il y a de plus viscéral chez nous, à savoir, pour moi, ce sera toujours la peur de la mort. Je veux dire, je pense que c'est ce qui nous hante évidemment le plus, et ce qu'on a tous en commun, c'est ça. Et eu égard à ça, moi, j'essaye justement d'aller vous chercher là-dessus, parce que je n'arrive pas à comprendre comment c'est quelque chose auquel on ne peut ne pas penser, ouais. Parce que ça enlèverait tout sens à notre existence si on décidait de n'y pas penser. Et donc, ça enlèverait tout sens à l'art si ça n'avait pas sa place dans l'art. Et c'est très bateau ce que je dis, parce que quand on pense à l'idée juste du clair-obscur en peinture, le clair-obscur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, et vice-versa. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu étonnée quand on me dit, quand on utilise les mots perturbants ou choquants, alors que pour moi, en fait, c'est aller dans ces terrains-là, c'est quelque chose de proprement existentialiste, en fait, et humaniste.
On comprend très bien ce que vous dites. Ça devrait pas être dérangeant de se confronter à cette idée de la mort, à cette perspective de la mort, à cette matérialité de la mort que montre le marbre. Ça devrait être normal. Et d'ailleurs, c'est ce que proposent les sages, ce que proposent les stoïciens, ce que proposent Socrate, Montaigne. Ils disent tous que ce qui est bizarre, c'est de ne pas y penser.
Bah oui, totalement, voilà. Je pense aussi.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la référence aux années SIDA est implicitement et passionnante, parce que toute la littérature des années SIDA, le film de Collard, Hervé Guibert, c'est des gens qui disent, en fait, on a été obligé de penser à la mort, parce qu'on l'a eu en nous, et ça a créé un regard, oui. Et ça a créé une vitalité, oui. Et ça a créé des œuvres d'art. Et d'ailleurs, il y a une scène de votre film qui parle beaucoup de ça, c'est une scène de danse. Mm-hmm. D'ailleurs, qui rappelle un peu, pour le coup, la scène de danse avec Vincent Lindon dans Titane, je trouve.
Elles sont opposées.
Oui, mais elles
disent l'opposé, en tout cas.
Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire par rapport à la scène de danse dans Alpha, c'est qu'il y a... je ne veux pas trop spoiler, mais c'est un moment où vont danser des gens qui sont tous atteints du même virus et qui se retrouvent entre eux. Pour le coup, ils ne sont pas stigmatisés par le regard des autres parce qu'ils sont tous entre eux. Et là, ils dansent et quelque part, ils s'éclatent et ils sont dans une vraie ivresse, une communion.
Ils sont vivants, quoi.
Et ils sont vivants parce que plus conscients de la mort qui arrive.
Ouais, c'est intéressant. En fait, moi, je pense que déjà... alors, je tiens à dire que dans ce bar, pour moi, il n'y a pas que des gens malades. Hein. C'est un bar, en effet... extrêmement punk, c'est un bar où on sent bien qu'effectivement il y a une population qu'on croise pas tous les jours dans la rue. C'est un espace de liberté, c'est un espace de non-jugement, ouais. Qui est essentiel justement pour rester vivant. Et pour rebondir ce que vous disiez sur les grands artistes issus de ces années 80-90 et qui ont été frappés par la pandémie de sida, je pense qu'aussi ce qui a créé art autour de ça, tout à l'heure je parlais du fait de montrer, mais je pense aussi au fait de nommer, c'est qu'il y a eu tellement de non-dits autour de cette maladie, il y a eu tellement de mensonges, il y a eu tellement de fantasmes, de pointages de doigts, de dire une fois de plus, la société n'a jamais pris cette maladie à bras-le-corps, jamais. Ça a toujours été la faute des gens qui étaient affligés, ça a été toujours à cause de leur mode de vie. C'est quelque chose que la société a refusé dans son ensemble, ce qui n'a pas été le cas de la pandémie de Covid. Et ça, c'est la grosse différence entre les deux. Et le seul truc où je pense, je finis là-dessus, où effectivement, je pense que c'est pour ça que ça a créé de l'art, parce qu'il y avait cette volonté de briser le non-dit, de nommer les choses pour ce qu'elles sont, de regarder les gens tels qu'ils sont, avec l'amour qui leur est dû. Et je pense qu'aujourd'hui, le non-dit auquel on est en train d'être confronté par rapport à la pandémie de Covid, qui n'est pas celui de l'ostracisation d'une partie de la population, mais qui est celui des conséquences sur les jeunes générations de cette pandémie, notamment économiquement et socialement, où j'ai l'impression qu'on dit à ces jeunes, vous vous démerdez tout seul, de toute façon, en gros, c'est comme ça et pas autrement. Et ça, je me demande bien ce que ça va donner dans 20 ans.
Et votre invitation, c'est de regarder en face, justement, pas de non-dit, pas de regard de biais. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'incarne cette médecin, jouée par Golshifteh Farahani, puisque au moins, elle regarde les gens en face et elle les touche et elle dit les choses comme elles sont.
C'est vite que je mélange, je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je vois les étoiles fuir. esprit. Je resterai sur le port si je mérite pas de guérir. Je crie tous les feux devant, je connais que l'errance. Le temps file si vite que je m'élance. Je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je vois les étoiles fuir. Elles ont pas de mérite, tout est riche. Je resterai sur le port si je mérite pas de guérir. Sur la corde. Tu m'oublies dans l'écho des cris. Tu marches sur un pas de chemise. Tu sais que je suis déjà parti. Tous les feux devant, je connais que l'errance. Le temps file si vite que je m'élance. Je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je vois les étoiles fuir. Elles ont pas de mérite, tout est riche. Je resterai sur le port si je mérite pas de guérir. Je crie tous les feux devant, je connais que l'errance. Le temps file si vite que je m'élance. Je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je vois les étoiles fuir. Elles ont pas de mérite, tout est riche. Je resterai sur le port si je mérite pas de guérir.
Éloi Châteaufort.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Julia Ducournau sous le soleil de Platon et nous parlons d'Alpha, votre film qui sort dans 2 jours. Alors, je ne veux plus dire qu'il est dérangeant parce que c'est normal en fait de se confronter à ça. Et ce qui est bizarre, c'est de ne pas le faire. On en parlait avant d'écouter Éloi. Mais je reviens sur cette famille parce qu'il y a aussi autre chose dont on n'a pas encore parlé. C'est que cette famille, elle est marquée par une croyance. Que partage la femme, qui est la sœur, et sa mère.
Non, alors c'est surtout une croyance qui vient de la grand-mère purement, ouais. Et que la mère ne partage pas du tout dans le film. Elle y vient au moment où elle perd sa rationalité par peur de que sa fille soit atteinte du virus. Mais pas du tout, c'est vraiment pour moi, cette croyance-là, à la base, pour vraiment marquer comment au sein d'une même famille, on peut avoir des individus qui sont complètement différents, qui viennent de milieux complètement différents, puisqu'il s'agit non seulement d'une famille biculturelle, puisqu'Alpha, elle, ne parle pas la même langue que ses grands-parents, mais aussi sa mère, qui est une transfuge de classe, oui, dont les grands-parents habitent encore en cité, mais qui, elle, étant devenue médecin, a eu accès à un niveau social plus élevé. Donc c'était
pour... Juste qu'on dise, oui, ce que c'est, pour que les gens comprennent, c'est la croyance en un vent rouge.
Dans le vent rouge, oui, qui représenterait la maladie, qui serait le démon de la maladie dans le film. En tout cas, c'est ce que croit la grand-mère. La grand-mère, c'est quelqu'un, voilà, on sent bien, qui vient, comme le dit Amine dans le film, personnage de Tahar-Rahim, qui vient d'une autre époque, d'un autre milieu. Et donc, lui dit, elle a une excuse. Mais en voyant sa sœur vriller et se mettre à se raccrocher à des croyances ancestrales, ouais, telles que le vent rouge, il lui dit, mais toi, c'est quoi ton excuse? T'es une bourgeoise, t'es médecin, t'es athée. C'est quoi ton problème? Et c'est pour montrer ce moment où, en fait, en l'absence de réponse, en l'absence de solution, quelqu'un d'aussi rationnel que la mère, qui est donc médecin, va se mettre à se raccrocher à des croyances auxquelles elle-même, elle ne croit pas, juste pour essayer de comprendre la situation et de mettre un pansement sur ses peurs à ce moment-là.
Cette grand-mère, elle ressemble à la vôtre ?
Oui.
un petit peu.
Oui.
Et elle est très... Moi, je trouve qu'on a envie de... Enfin, c'est irrationnel, mais pourquoi pas, au fond ? On n'explique pas, d'ailleurs, beaucoup...
De toute façon, il n'y a absolument aucun... J'ai pas de point de vue là-dessus. Moi, c'est-à-dire qu'une croyance, c'est une croyance. Qu'on croit à la médecine occidentale, à la médecine orientale, que l'on croit aux chamans ou à... Enfin, y a, en fait, ce qui est intéressant, c'est de placer ces croyances-là au même endroit, au même moment, et de voir comment elles se confrontent, surtout au sein d'un rapport mère-fille. Ça, c'est intéressant. Après, là-dessus, moi, mon point de vue, il est absolument... il n'a aucun intérêt.
On a l'impression que la famille est aussi une drogue, mais que on peut se sevrer.
Alors oui, je pense que c'est intéressant ce que vous dites. Je pense que de toute façon, l'émancipation, elle est nécessaire pour tout le monde, pour n'importe quel individu, pour se trouver ses contours et pour essayer de se projeter comme être en devenir. Évidemment, il faut pouvoir s'arracher. Et alors là, ce qu'il y a de particulier dans Alpha, que je traitais pas du tout dans mes deux précédents films, c'est que je m'attache à l'émancipation de la figure maternelle. Que fait et la mère d'Alpha vis-à-vis de la grand-mère et Alpha vis-à-vis de sa mère. Et je trouve que c'est infiniment plus dur à traiter que l'émancipation face à la figure paternelle que je traitais dans mes deux précédents films, puisque quand on parle de figure d'émancipation par rapport à la figure paternelle, on parle de se libérer de ce désir de validation par rapport à un regard. Mmh. Alors évidemment, ce regard, quand il est transféré à la société, ça peut devenir très névrotique et très douloureux, évidemment. Mais quand on parle d'une émancipation à la figure maternelle, on parle de s'arracher à une symbiose, à une fusion originelle. Non, mais plus que ça, à s'arracher à une part de soi-même. C'est vraiment, on vient du ventre quand même. Donc quand on grandit, on continue jusqu'à cette émancipation future, on continue à porter une partie de cet premier habitat en nous. Donc il faut faire le deuil d'une part de nous également. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on devient après ? Et Freud disait qu'il fallait tuer le père, et ça, alors tout à coup, ça m'apparaît très facile de tuer le père. Mais on peut pas tuer la mère, parce que si on tue la mère, on tue une part de nous-mêmes. Alors pour moi, ce que je vois comme seule alternative possible pour Alpha à la fin, pour s'émanciper réellement, c'est de devenir la mère de sa mère. Je ne vois pas d'autre solution pour elle.
Ouais. Sartre disait quand les pères ont des projets, les filles ont des destins. Mm-hmm. Sous-entendu, ils n'y arriveront jamais quoi, à tuer le père.
Ouais.
En réponse à Freud, mm-hmm. c'est que Sartre ouais. était obsédé par Freud, il voulait toujours montrer que Freud avait tort. Mm-hmm. Et il n'avait pas vu que c'est encore plus dur, c'est oui. ce que le film montre par rapport à la mère. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est ce personnage qui est très touchant, cet ado. D'ailleurs, pourquoi elle s'appelle Alpha ?
Elle s'appelle Alpha pour plein de raisons. La première, évidemment, c'est que, comme je disais tout à l'heure, elle naît dans un monde où tout le monde meurt. Donc c'est pour moi, c'était un Alpha dans un monde d'Oméga. Et aussi parce que Alpha, c'est le nom qu'on donne à la première étoile qu'on découvre lorsqu'on découvre une constellation.
Ouais.
Le motif de la constellation revient beaucoup dans le film, pour le mieux et pour le pire. C'est-à-dire que la constellation, c'est à la fois nos attaches, c'est à la fois l'amour qui nous lie, et ça peut être aussi la contamination.
Mmh. Ouais.
Donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça.
En tout cas, je vous recommande vraiment d'aller voir ce film. C'est pas parce qu'on vous dit de le voir deux fois que vous n'aurez pas de plaisir la première fois, donc commencez déjà dans deux jours. C'est un film, je trouve, moi, en tout cas je l'ai reçu comme ça, sur comment l'amour peut cesser d'être toxique tout en restant de l'amour, parce que finalement Alpha, elle arrive à se libérer, on va dire, de cette, c'est plus qu'une emprise, de la mère qui est en elle, en fait,
mm-hmm.
mais ça reste plein d'amour. Comment elle va libérer sa mère et lui dire maintenant arrête, lâche-moi. Quand elle sort en boîte avec son oncle, c'est de l'émancipation pour moi.
Ouais,
et elle brave l'interdit parce que la mère avait dit, comme elle est médecin, vous êtes trop fragile pour sortir.
Ouais.
Mais en fait, il brave l'interdit. Mmh. Voilà, j'en dis pas trop. Et c'est une sublime scène de liberté.
Mmh.
J'ai adoré cette scène. Et qui rappelle d'ailleurs, je le dis encore une fois, toutes les scènes qu'on a vues dans les littératures des années Sida, sur les gens qui font la fête malgré tout et qui s'aiment malgré tout. Mais il reste l'amour quand même.
Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, il vaut mieux trop d'amour que pas assez, je pense quand même.
Vous montrez quand même que trop, c'est trop.
Évidemment, il y a la question des limites. Amine le dit dès le début du film. Dès le début du film, il dit, de toute façon, ils n'ont aucune limite dans cette famille. Alors, on voit bien qu'on est dans un matriarcat, dans un endroit où, évidemment, lui, en tant qu'homme, il est étouffé dans cette famille. Il a été étouffé dans cette famille, une fois de plus, puisque c'est un récit rétrospectif. Mais, en tout cas, l'amour qu'à la fin d'Alpha pour sa mère, je pense qu'il intervient, justement, en ayant revécu ce qu'elle a déjà vécu, dans cette espèce de scène onirique où elle revit le passé. Je pense qu'elle arrive à avoir voir sa mère enfin comme un individu et pas juste comme sa mère. Elle la voit comme une femme et comme une femme qui a souffert, une femme qui n'a pas toujours eu raison, mais une femme qui a toujours bien fait.
Et finalement, c'est un film sur un deuil pathologique et sur comment on sort d'un deuil pathologique.
Oui. Oui.
Et donc c'est aussi une invitation à un moment à retrouver la vie, parce que le deuil pathologique c'est quand c'est normal, il y a le deuil normal et puis les spécialistes du deuil, d'ailleurs j'avais reçu à ce micro Alain Sautreau qui en parlait très bien, disent que voilà, quand on passait un an, en gros on continue à penser qu'il va revenir, quand on se débarrasse pas des affaires,
qu'il y a pas de deuil,
quand on continue à lui parler, ça devient un deuil pathologique. Alors, après il y a un débat, est-ce que c'est un an, deux ans ou même cinq ans, mais là il y a une proposition quand même pour que la vie au fond gagne.
Ben, je pense que dans l'image finale, dans la tempête de vent rouge, justement, on finit sur Alpha qui est la seule debout dans cette tempête. Qui reste, en fait, pour moi, le vent rouge, après chacun y verra ce qu'il voudra, mais pour moi, à la fin, en tout cas, il représente la mémoire de nos morts, et elle a plein de sable rouge sur le corps, ce qui montre que cette mémoire-là, elle sera toujours imprimée en elle, elle sera toujours sous sa peau, mais elle reste debout dans la tempête, donc elle est, pour moi, c'est la foi que j'ai dans les futures générations, et surtout, elle regarde sa mère, et elle regarde la souffrance de sa mère en face, et ça aussi, c'est très important. J'ai très très foi les générations futures, je dois dire.
Eh bien, c'est une très belle conclusion, et aussi de finir sur ce vent rouge, comme quoi on avait peut-être raison d'avoir une croyance irrationnelle, parce que, j'en dirai pas plus, mais la fin du film est très, enfin, plastiquement, selon moi, sublime, notamment parce qu'il y a ce vent rouge, mais pas seulement. Je vous laisse aller le découvrir dans deux jours au cinéma Alpha, de vous, Julia Decourneau. Et pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, je vais essayer de résumer votre philosophie, mais je suis gêné parce que je sais que vous allez tiquer, c'est pas la philosophie, c'est surtout l'esthétique au fond. Et vous avez dit depuis le début de l'émission, mais je veux pas répondre, je veux poser des questions, donc j'ai l'air d'un con avec ma philosophie. Mais je vais quand même essayer, parce que c'est mon métier. Quelque chose qui hésite entre regarder en face, quand même quelque chose de très nietzschéen, on regarde en face la mort, on regarde en face la vulnérabilité, on regarde en face le corps fragile, le corps perturbé, le corps souffrant, donc quelque chose de freudien un petit peu aussi. Vous avez hésité tout à l'heure entre la poésie et la psychanalyse, et puis évidemment une philosophie de la métamorphose, et ça aussi c'est très nietzschéen, Kafka, Nietzsche, Freud, que des gens qui parlent d'alchimie. Voilà, la vie, c'est de changer de forme sans cesse, et il n'y a rien de plus beau que le cinéma, et votre cinéma, pour nous donner à voir, pour rendre sensible ce changement, cette métamorphose des formes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Laura Dumez et Audrey Carme. Elle a été réalisée par Alicia Vullo, avec à la technique Nicolas Delmas, à la programmation musicale, comme d'habitude, Valentine Chaudebois qui a eu l'excellente idée de Prince. Merci beaucoup, à demain.